Merci au groupe Louange pour ce temps que nous avons pu vivre ensemble. J'aimerais encore juste dire deux, trois choses. La première chose, donc, c'est vrai que je l'ai dit en introduction, que le message ne sera pas porté par Marc, mais par Eric. Ce n'est pas comme ça, sur un coup de tête, que Marc a troqué son prêche, mais vu la situation, donc c'est vrai que le week-end passé, Christine et Marc et Gabi, je crois, étaient retournés en Vendée. Marc est rentré le dimanche avec Gabi, Christine était restée jusque, je ne sais plus, mercredi. Et puis c'est vrai que lundi, lors du conseil, on ne connaissait pas, je veux dire, personne ne connaissait la situation. Et c'est vrai qu'on a décidé à ce moment-là de libérer Marc de cette prédication de ce jour, et c'est là qu'on s'est tourné vers Eric, qui a accepté, qu'on remercie d'avance. J'ai aussi omis de transmettre que c'est vrai qu'on a quelques jeunes là, mais il y en a aussi toute une équipe qui sont au col du Pillon, sauf erreur, c'est le groupe du Caté et de Tilt. Je ne sais pas exactement combien d'enfants ils sont, je ne sais pas, Arnold, une trentaine. Et leur thème est le thème du jour, donc le Saint-Esprit. Donc, on peut aussi penser à eux, les moniteurs. Donc, je crois qu'il y a Alexandre Vanet, il y a Monica Mag, il y a eu Arnold, enfin, voilà un petit peu les... Comment ? Et Christophe Day, bien sûr, que j'ai. Et Joël, bien sûr. Encore d'autres ? Voilà. Et donc, les quatre du pré-4 qui vont rester avec nous. Quel dur labeur. Je sais que c'est des fois c'est difficile pour vous de rester pendant le culte, mais je pense que Eric aura aussi une parole pour vous. Et puis après le message, vous repartirez avec Anne et Christine, et puis vous allez pouvoir reprendre un petit peu tout ce qui a été dit ce matin. Voilà, je vous propose encore de prier peut-être avant d'écouter Eric. Eh bien, Seigneur, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, j'aimerais te remettre toute cette grande équipe d'ados qui est au col du Pillon, qu'ils puissent être sensibles à ce que tu aimerais leur apporter. Je te remets aussi tous les responsables. Merci pour le temps qu'ils mettent à disposition pour nos jeunes. Seigneur, j'aimerais te remettre aussi les quatre jeunes là du pré-4, que tu puisses... Ouais, d'une façon ou d'une autre, aussi leur donner une parole durant ce culte. Libère-nous de toute préoccupation, puis ouvre nos esprits et nos cœurs afin d'écouter la parole avec un vrai désir de recevoir quelque chose ce matin. Amen.
Amen. Bonjour à chacun. Alors ce matin, non seulement on a troqué le prédicateur, mais en plus de ça, vous avez un prédicateur qui est un petit peu mal fichu, qui est handicapé, puisque il y a 2 jours, je n'avais pour ainsi dire plus de voix. Aujourd'hui, elle est un petit peu là, un peu basse. De temps en temps, j'ai des quintes de tour, vous m'en excuserez. Voilà le thème que j'ai pris, enfin que nous prenons aujourd'hui, c'est bien sûr le thème de la Pentecôte. C'est quelque chose que nous connaissons. Chaque année, nous entendons parler de la Pentecôte et on pourrait se poser la question, pourquoi reprendre toujours ce thème de la Pentecôte chaque année? Est-ce que c'est nécessaire puisque finalement chacun de nous connaît ce qui s'est passé à la Pentecôte? Et puis finalement, pourquoi en reparler chaque fois? Bien, quelqu'un disait, l'origine des choses nous montre comment elles devraient se construire. Donc, allons à l'origine des choses pour essayer de comprendre comment la suite doit se faire. C'est pour ça qu'il vaut la peine continuellement de reprendre ces textes qui sont à l'origine du royaume de Dieu. On va prendre ce texte de Actes 2, 1 à 12. On va le lire. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. il s'imposa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïques, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et puis, le texte, acte 2, 17 à 18, il s'agit ici du début de la prophétie de Joël que Pierre va expliciter après ces événements. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. » Bien, c'est la parole de Dieu et nous allons voir quelques éléments de cette parole. Je vais essayer de développer 4 points. D'abord, quelques caractéristiques du royaume de Dieu liées à la Pentecôte. Ensuite, 2 principes. Un principe, l'explicatif et le surnaturel. Un 3e point, nos peurs, réticences par rapport aux manifestations de l'Esprit. Et puis le 4e point, élargir l'espace de nos tentes. Voilà. Alors d'abord, quelques réflexions sur la Pentecôte. On en a déjà un petit peu entendu parler, juste avant, par Georges. Mais on va vite un petit peu reprendre cela. Que fait-on lorsqu'on entend un grand bruit inhabituel? La plupart du temps, on va regarder ce qui se passe. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte. C'est que ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. C'était la fête de Shavuot, une des 3 fêtes qui nécessitent le pèlerinage à Jérusalem. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était 50 jours après Pessah, la Pâque juive, pour nous, le temps où Jésus a été crucifié. La Pentecôte, c'est la fête du don de la Torah. C'est toujours surprenant. Le don de la Torah. La Torah, ce sont les cinq premiers livres de la Bible. La Torah, c'est l'essentiel pour les Juifs. Chaque lettre a du sens. Chaque lettre parle de Dieu. Pour nous, c'est la fête de la Pentecôte. Ce n'est plus la Torah, la loi juive. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre la place. Mais c'est en même temps la fête de la moisson, la fête des prémices. On va apporter à l'Éternel les premiers fruits. C'est magnifique. C'est une fête formidable. Pour nous, qu'est-ce que représente Pentecôte? Est-ce que c'est l'arrivée sur la terre d'une nouvelle religion? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle religion qui vient sur la terre? Non, ce n'est pas une nouvelle religion qui vient sur la terre. Qu'est-ce qui vient sur la terre? Alors on dit le Saint-Esprit. Moi je vais l'appeler un petit peu autrement. C'est la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient sur la terre. lorsque Jésus était présent, il pouvait dire « Le royaume s'est approché de vous ». Quand il est parti, il a dit qu'un autre, semblable à lui-même, viendrait, et c'est le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Et c'est un vrai royaume. Qu'est-ce qui compose un royaume? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un royaume? Il faut un roi. Donc c'est un royaume qui a un roi, et ce roi c'est Jésus-Christ. Et puis, un royaume existe que s'il a un territoire. Quel est le territoire du royaume de Dieu? Ouais. Non, mais on pourrait le penser, hein, le paradis, le royaume de Dieu, c'est le ciel. Non, le royaume de Dieu a comme territoire la terre. Les principes bibliques sont les règles de vie de ce royaume. Et puis dans ce royaume, il y a des sujets. Ce sont tous ceux qui sont d'accord d'obéir au roi. Et dans ce royaume, il y a un esprit différent que dans le monde. Quand je parle du monde ici, je ne parle pas de la création, mais je parle bien des gens animés d'un esprit qui les oppose à Dieu. J'aimerais vous donner quelques caractéristiques de ce royaume. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres textes qui nous parlent de ce royaume, mais j'ai juste pris ici le texte de la Pentecôte et puis essayé de tirer quelques éléments sur les caractéristiques de ce royaume. D'abord, vous avez entendu, il y a eu un bruit violent, comme un vent violent. Ça, c'est le symbole de la puissance de Dieu et la liberté du Saint-Esprit. Dieu veut que ses sujets, nous, soyons libres, libres en tout cas déjà des principes du monde, pour pouvoir vivre la liberté des principes de Dieu. Et puis, s'il y a ce symbole de la puissance, de la force de Dieu, c'est que Dieu veut que ses sujets soient des hommes forts, des femmes fortes. Souvent, on est dans l'humiliation et pas dans l'humilité. Dieu veut que nous soyons debout, que nous soyons forts. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Soyez des hommes !» À quelque part, il voulait leur dire un petit peu, « Soyez entiers !» Si vous croyez à ce royaume, si vous croyez à ce Seigneur, alors marchez selon votre foi. Et pas avoir une foi qui sauve et un autre fonctionnement à côté. Et puis, il y a eu des langues de feu qui sont venues. Quelque chose qui ressemblait en tout cas à des langues de feu. Moi, je n'ai jamais vu des phénomènes comme ça. Hein. Le feu, ça nous rappelle la lumière, la chaleur, ça nous rappelle l'amour. Ce sont des symboles d'amour. Dans ce royaume, il y a l'amour. Les sujets sont aimés. Nous sommes aimés. Quelqu'un pense à nous. Quelqu'un nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Dieu s'occupe de nous parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, vous savez, le feu représente aussi la purification. Il veut nous purifier. La purification est une conséquence de l'amour. Il enlève nos péchés. Il couvre nos fautes. Paul va prendre cela comme exemple du couple, du mariage. Il va prendre cela, cette notion de l'amour qui couvre les choses, qui couvre les mauvaises choses. Il enlève les fautes, les péchés. Il enlève la culpabilité. Ça veut dire que les sujets de ce royaume sont des gens qui sont aimés et qui sont libres de leur passé. Ils peuvent vivre maintenant confiants dans l'avenir que le roi des rois, leur prépare. Et puis vous voyez que ces flammèches, ces flammes, ces langues qui, de feu sont venues et se sont posées sur chacun. C'est quelque chose de personnel, ce n'est pas quelque chose de collectif. Chacun reçoit pour lui le Saint-Esprit. Parce que dans ce royaume de Dieu, l'individu est reconnu et respecté. On ne fait pas partie d'une masse informe, uniforme. On est des individus différents et aimés, et ça se manifeste sous forme de respect et de reconnaissance de notre personnalité. Et parce qu'on est reconnu, on fait partie de ce royaume mondial au travers de la communion fraternelle les uns avec les autres. Et puis, pour faire partie de ce royaume, il faut recevoir le Saint-Esprit. Alors, vous l'avez lu dans le texte de Joël, le Saint-Esprit, il est donné à toute chair, à toute personne. Ça, c'est quelque chose que on croit maintenant, ça nous paraît presque banal. Pour quelle raison ? Ben parce qu'on s'est habitué, ça fait 2000 ans qu'on nous le dit. Mais vous avez vu, Joël le donne sous forme d'une prophétie, parce que c'était quelque chose de révolutionnaire, de nouveau pour l'époque. Les seuls qui recevaient le Saint-Esprit, c'étaient les rois, les prêtres et les prophètes, et seulement en Israël. Et maintenant, c'est destiné à chacun. Et il n'y a plus ni homme ni femme. Vous avez vu, le sexisme disparaît. Les classes sociales disparaissent parce que le Saint-Esprit sera donné aussi bien aux serviteurs, aux servantes, donc aux maîtres, etc. Les classes sociales dans ce royaume disparaissent. Et puis, vous avez remarqué aussi que tout d'un coup, les apôtres se sont mis à parler en langue. Alors, je ne vais pas rentrer dans une discussion pour savoir quel type de langue c'était, etc. Ce n'est pas le sujet ici. Mais ils se sont exprimés dans des langues, et puis les gens ont compris ce qui était dit. Ils ont entendu des merveilles de Dieu. Alors pour certains, c'est un petit peu l'anti-Babel. Vous savez, à Babel, les hommes avaient construit une grande ville. Ils avaient construit une ziggourate, une grande tour, parce qu'ils voulaient atteindre le ciel. Et puis Dieu les a dispersés, et puis il a mélangé les langues. Et certains disent, mais ici, c'est l'inverse de ça. Dans le royaume de Dieu, on se comprend. Mais je ne crois pas que ce soit ça, ce que dit la parole de Dieu ici. Dieu s'adapte. Dieu s'adapte. Il y a le chaos des langues et Dieu vient dans ce chaos. Il s'adapte et il s'arrange pour que tout le monde comprenne, que tout le monde saisisse. Et ce qu'il y a de formidable dans ce texte, c'est qu'on pourrait se dire, vous savez qu'à l'époque, les gens parlaient le grec et l'araméen. C'était un peu les... Dans Israël, c'était plutôt l'araméen, mais sans doute que les juifs de la dispersion parlaient aussi l'araméen, mais souvent les gens parlaient le grec. Alors ils auraient pu parler peut-être en grec, en araméen, puis à peu près tout le monde aurait compris. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont parlé dans la langue maternelle des gens. Dieu non seulement s'est adapté au chaos du monde, mais il va parler dans la langue maternelle des gens. Il va toucher leur cœur. C'est là qu'il veut venir toucher le cœur des gens. Donc voyez-vous, ce royaume, c'est un royaume qui s'adapte continuellement, qui doit s'adapter à l'image de celui qui l'a créé, de celui qui l'a fait. Un royaume qui s'adapte pour que le message du royaume puisse être communiquer à chacun. Et c'est un message qui doit atteindre le cœur des gens. Et nous sommes appelés à cela. Alors ça, c'était un petit peu un petit développement comme ça de la Pentecôte, de ce qui s'est passé. Mais une fois qu'il y a eu ces événements surnaturels, il y a quelque chose de plus normatif qui s'est passé, de plus habituel, que l'on vit plus ici. Pierre a expliqué le phénomène surnaturel et ensuite il a prêché l'évangile. Il est passé dans ce que j'appelle la phase explicative. Et c'est là que j'aimerais aborder ces deux aspects, ces deux principes, le principe du surnaturel et le principe de l'explicatif. Pour ça, j'imagine qu'un reporter soit là-bas, le jour de la Pentecôte, et puis il essaye de dire à ses auditeurs ce qu'il voit sur le résultat de ce qui s'est passé. Pas sur le tout, sans ça je devrais tout vous raconter de nouveau, puis ça serait lassant, mais seulement sur le résultat. Alors qu'est-ce qu'il dirait? Il y a eu un coup de pub, parce qu'il y a eu un gros bruit, et puis ça semble avoir bien marché, parce que plein de gens sont venus voir ce qui se passait. Alors ça, au niveau de la pub, c'était excellent. Ce qui était aussi excellent, c'est que les gens se sont questionnés, ils se posaient des questions, ils se disaient « mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais enfin, etc. » Ça fait aussi partie peut-être de la pub, donc c'est quelque chose qui est pas mal. Il pourra dire aussi, le résultat, c'est que les gens ont entendu parler des merveilles de Dieu. C'était la plupart des gens qui étaient là-bas, étaient des gens qui connaissaient Dieu. C'était des gens qui avaient entendu parler de Dieu, puisque c'était des juifs, ou en tout cas des sympathisants, qui s'intéressaient beaucoup aux choses de Dieu. En fait, ils avaient la partie explicative concernant de Dieu. Et puis tout d'un coup, ils entendent parler des merveilles de Dieu, ça veut dire qu'ils ont entendu quelque chose d'autre. Les jeunes qui connaissent un petit peu la 3D, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si ces gens qui étaient là avaient l'habitude de l'explication des choses de Dieu, et tout d'un coup, ils se trouvaient dans un monde où c'était en 3D. C'était comme si tout d'un coup, les merveilles de Dieu étaient carrément palpables. Ils entendaient parler des merveilles de Dieu. Les cœurs s'ouvrent, c'est ce que le reporter va dire. Et il y a des questions qui fusent par rapport à ceux qui sont, par rapport aux disciples. Tout ça, ça paraît positif. Il y a des critiques. Ouais, ils sont sous, ils ont trop bu, etc. C'est pour ça qu'il y a ces phénomènes, etc. Il y a des critiques. Voilà. Mais le reporter va pouvoir faire une constatation surprenante. Suite à la Pentecôte, personne n'adhère au christianisme. Personne. Les gens adhèrent à la foi après la partie explicative. Une fois que Pierre a expliqué et annoncé l'évangile, les gens se convertissent. Et ils se convertissent en grande quantité. En fait, s'il n'y avait pas eu la prédication de Pierre, il n'y aurait pas eu de conversion, malgré l'aspect surnaturel de la chose. Et s'il n'y avait pas eu d'aspect surnaturel, eh bien la prédication de Pierre se serait faite à des chaises vides et à des disciples qui étaient déjà convaincus. Mais voilà, la Pentecôte nous montre qu'il y a ces deux aspects qui sont si importants. Les manifestations surnaturelles, et là-dedans je vais inclure deux choses importantes du royaume de Dieu, la foi, les démarches de foi et l'autorité que le roi délègue à ses serviteurs. Et l'autre aspect, c'est l'aspect explicatif. Alors je crois que dans notre communauté, l'aspect explicatif, nous l'avons. Oh, on n'est pas toujours content. Parfois on voudrait qu'il y ait plus d'émotions, parfois on voudrait que ce soit plus intellectuel. Voilà. Mais l'aspect surnaturel, peut-être qu'on est un petit peu faible. Mais ces deux éléments sont absolument indispensables. Alors, peut-être que nous sommes peut-être un peu faibles au niveau, en tout cas dans ma vie, un peu faibles au niveau de l'aspect surnaturel. C'est peut-être parce qu'il y a des peurs ou des réticences par rapport aux manifestations de l'esprit. On a peur du surnaturel. Peut-être qu'on a été blessé par des milieux qui pratiquaient mal la vie de l'esprit, la puissance de l'esprit. C'est que, voyez-vous, il y a différents fonctionnements parmi les chrétiens. Certains pensent ou travaillent un petit peu comme si le royaume de Dieu était complètement sur la terre. Donc, tout devient spirituel. Tout le monde doit être guéri. On va jusque-là. C'est comme si la raison humaine n'avait plus rien à faire. Mais parfois, on peut être un petit peu blessé, gêné de ce genre d'approche. Mes enfants, les aînés, sont allés plusieurs fois à des week-ends ou à des camps même, où il y avait des manifestations de l'esprit. Et puis de temps en temps, il y avait un prédicateur qui était un peu extrémiste dans ce sens-là. Pour lui, on peut dire, il y avait ce concept que le royaume était entièrement sur la terre, je veux dire complètement, ça y est, c'était fait, et il prêchait que tout le monde devait être guéri. Et je me rappelle qu'une fois Daniel est rentré à la maison, il disait, on a été bénis pendant ce week-end, le Saint-Esprit a agi, on a vécu des choses, c'était super. Bon, il y a bien eu un prédicateur qui a dit ça, que tout le monde pouvait être guéri, leur maman est décédée, donc ils étaient particulièrement touchés. Alors il a écrit un mail, simplement à ce prédicateur pour lui dire, tu m'as béni parce que j'ai reçu de toi, par ton témoignage, par la puissance d'esprit qui t'anime, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et voilà, le problème s'est réglé, mais les bénédictions étaient présentes. Puis il y a des gens qui vivent le royaume de Dieu comme s'il était au ciel. Alors là, le problème, c'est que ce sont des gens qui parfois sont complètement déconnectés de la vie humaine. Ils sont un peu dans leur bulle. Les choses de la terre ne les intéressent pas beaucoup. Ils vivent leur truc à eux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un monsieur qui était comme ça. Il a passé toute sa vie à bosser. Il avait une entreprise. Et puis, il allait le dimanche à l'église, mais il n'a pas pu s'investir dans son église. Et puis, il est arrivé à l'âge de la retraite, puis il me disait, ben voilà, maintenant j'ai un peu de temps, alors je fais ce que je peux. J'essaie de rattraper le temps perdu. Je m'investis pour l'Église maintenant. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Le royaume de Dieu, il est là-haut. Ça m'attristait d'entendre cette forme d'approche du royaume de Dieu. Et d'autant, et encore plus de voir cet homme un petit peu passif, un peu défait par rapport à son concept. Non, le royaume de Dieu est sur la terre, il est bien sur la terre, mais pas dans sa plénitude. Voilà, moi c'est ma foi. Le royaume de Dieu est là, mais tout est encore en devenir. Alors c'est surprenant cela, hein ? Le royaume de Dieu est présent, mais est encore en devenir. Et il sera pleinement établi quand Jésus-Christ reviendra, et là, il sera pleinement établi. Alors, parce qu'on a cette position, on pourrait dire un peu médiane, cette position équilibrée, bien, je ne sais pas chez vous ce que ça crée, moi, chez moi, ça crée un déséquilibre ou un problème d'équilibre. C'est que quand j'ai cette position-là, comment je mets l'humain et comment je mets l'esprit ? Où je mets l'explicatif et où je mets le surnaturel. Il faut que je trouve un équilibre là-dedans.
Et puis je crois qu'il faut qu'on avance pour trouver cet équilibre. N'ayons pas peur du Saint-Esprit. N'ayons pas peur du Saint-Esprit. Il ne nous met pas dans un état second. Il ne nous met pas hors réalité. Il ne nous transforme pas en marionnettes. Au contraire, il nous éclaire pour voir qui nous sommes. Je vais vous dire quelque chose d'un peu surprenant ici. Le diable veut nous dire que nous sommes pécheurs. Eh ouais, il voudrait nous dire ça. Parce que si je suis pécheur, eh ben je vais pécher. Mais le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que je ne vais pas pécher. Et ça veut dire que je vais essayer de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, donc, va nous éclairer pour voir qui nous sommes. Il va nous mettre face à la réalité de la vie terrestre. Et il va nous aider à voir les choses de manière les plus objectives possibles, pour qu'on puisse les voir de plus en plus comme Dieu les voit. Il nous stimule à développer nos talents, à aimer et à devenir des hommes et des femmes comme Dieu les veut. Lorsqu'il se manifeste au travers de ses dons, le Saint-Esprit se soumet à celui qui a le don. Il va jusque-là. Il se soumet à celui qui a reçu le don. L'esprit du prophète est soumis au prophète, nous dit l'Écriture. Ce qui veut dire que quelqu'un qui reçoit une prophétie, il n'est pas tout d'un coup pris dans son truc et puis il ne peut plus faire autrement que de dire ce qu'il a reçu en faisant taire les autres. Non, il peut garder cela et le donner au moment opportun. Non, le Saint-Esprit ne nous prend pas notre personnalité, il garde et il développe notre personnalité. Et il va se manifester au travers de ceux qui sont d'accord qu'il se manifeste au travers d'eux. Élargir l'espace de notre tente. Cette autre phase, cette autre partie de notre vie, il y a l'explicatif qu'on développe facilement, je sais et j'en parle parce que je connais ce domaine, l'explicatif, mais développons le côté surnaturel. Pierre et Jean montent au temple, ça c'est acte 3, 1 à 7, mais on ne va pas le passer parce que je vois que le temps passe vite, alors je vais bientôt arrêter. Pierre et Jean montent au temple, c'était quelques jours après la Pentecôte, et ils voient un paralytique qui est là, et puis Pierre dit, il le regarde comme ça, puis lui dit, moi, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le paralytique a marché. Moi, je trouve formidable cette histoire, parce qu'on est appelé à imiter ceux qui nous ont précédés. Ça vous est déjà arrivé de faire ce que Pierre et Jean ont fait? Moi, si je vois un mendiant, qu'est-ce que je fais? Je fais un contour pour l'éviter. Est-ce que je vais lui donner quelques pièces d'argent, comme ça je suis tranquille avec ma conscience? Est-ce que j'ai le courage peut-être de m'asseoir à côté de lui, puis d'essayer d'avoir une conversation? Est-ce que j'ai le courage d'aller un petit bout plus loin, de m'asseoir à côté de lui, avoir une conversation? Annoncer l'évangile. Et puis s'il me demande, ah mais ton Dieu qui me sauve, est-ce qu'il peut me guérir? L'explicatif va lui dire, tu sais, les miracles, c'est pas ça qui donne la foi. Il peut te sauver, mais il peut rien pour toi. Ou je ne peux rien pour toi. on va se trouver confronté à ce genre de choses. Alors peut-être que il y a d'autres approches. Quelqu'un disait, si Pierre et Jean ont pu dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent et pas d'or. Tandis que dans l'église, maintenant, il y a de l'argent et de l'or, alors on ne peut plus dire ça. Ben moi, je connais des gens qui ont de l'or et de l'argent, puis qui arrivent à dire ça, puis ça marche encore, et le paralytique, il se lève. Hein. D'autres vont dire, oui, mais attention, c'est le don de la foi. C'est vrai, c'est le don de la foi. Mais moi, je n'ai pas le don de la foi. Ce don de la foi, ce n'est pas le don du salut, le don de la foi qui reçoit le salut. Ici, quand on parle du don de la foi, il s'agit de la foi qui déplace des montagnes, dont Jésus a parlé. Alors moi, je n'ai pas ce don de la foi, donc je ne peux rien faire et je ne peux pas rentrer dans le surnaturel. Mais Dieu nous a donné à chacun, à chaque citoyen du royaume, il nous a donné de la foi. Et il nous a donné à chacun de l'autorité. Alors peut-être pas celle pour qu'un paralytique se lève, mais au moins pour rentrer progressivement dans le monde du surnaturel. Pour oser le monde surnaturel. J'ai tout de suite fini. Je vous donne juste un petit exemple. Prenons la prière. Moi, j'ai une prière explicative. J'explique à Dieu la situation des gens. Oh, tu vois, Seigneur, c'est paralytique. Tous les jours, il doit venir là. Et puis, il y a des gens qui passent. Oh, mais Seigneur, tu vois comme ça doit être humiliant. Et puis, je vais raconter la vie de ce paralytique. Puis peut-être que je vais aussi expliquer à Dieu un peu comment j'aimerais qu'il intervienne. On peut le faire, et je crois que c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que je peux passer d'une prière explicative à une prière de foi, à celle qui va faire bouger des choses? Donc il y a des progrès à faire, à passer d'une forme de prière à une autre forme de prière. Une prière qui explique les choses et dont j'ai besoin et que Dieu honore, à une prière qui va déplacer, qui va faire bouger des choses. Alors pour cela, eh bien, il faut pouvoir un petit peu plus écouter ce que Dieu met en nous. Ça, c'est important. Est-ce qu'on comprend de ce que Dieu a mis en nous, le dire par la foi? Je crois, Seigneur, que tu as mis telle et telle chose en moi. Alors, par la foi, je le crois. Et maintenant, j'agis avec la foi. Personnellement, mon petit paralytique, là, qui représente mes sujets de prière, mes difficultés, enfin, ce que je place devant le Seigneur, bien, j'ai changé un petit peu ma forme de prière. Enfin, je prie toujours comme avant, mais j'essaie de passer plus de temps devant le Seigneur. Et puis, j'ai découvert quelque chose d'assez surprenant. En passant plus de temps devant le Seigneur, il y a de temps en temps des noms comme ça qui me viennent. Je pense tout d'un coup à quelqu'un. Puis au début, je disais, bon, ben, je pense à quelqu'un. Au nom de Jésus, chasse ses pensées. Puis je me suis dit, non. Je pense à quelqu'un, je vais prier pour cette personne. Puis, pendant tout un mois, une fois, je pensais fréquemment à une personne. Et puis, quand j'ai revu cette personne quelques mois plus tard, je lui ai dit, dans la période, cette période-là, ce mois-là, qu'est-ce que tu as vécu? Tu as eu des difficultés? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il me dit, ben ouais, j'ai eu des temps très difficiles dans ce mois-là. Puis il me dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Je dis, mais parce que, je ne sais pas pour quelle raison, je pensais à toi quand je priais, quand j'étais devant le Seigneur, et je t'ai apporté pendant tout un mois au Seigneur, alors que normalement, je ne le fais pas. Voilà, c'est mon petit pas dans le surnaturel. Je vais arrêter là. en vous donnant simplement ces choses, une ou deux phrases encore. La puissance de Dieu, est-ce que ce ne serait pas cette langue maternelle que tout le monde comprend? Cette puissance de Dieu qui se manifeste, ne serait-elle pas ce langage que le monde comprendrait? Ce langage qui va toucher aussi le cœur et qui va permettre au cœur de s'ouvrir, sauf certaines personnes, sauf ceux qui ont toujours besoin d'explications. À l'époque de Jésus, ceux qui avaient besoin d'explications, c'était les gens religieux. Et puis, Jésus-Christ, qui est notre modèle, c'est un modèle d'équilibre. Il y a eu un équilibre extraordinaire entre l'explicatif et le surnaturel, parce que son autorité était dans les deux. Elle était aussi bien dans l'explicatif que dans le surnaturel. Alors que Dieu nous conduise et nous aide à développer dans nos vies individuelles, et peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui décide, dans le cadre de la communauté, de développer ce côté de la tente, la tente, élargir l'espace de sa tente, conquérir du terrain dans le surnaturel. Que le Seigneur nous conduise. Amen.